Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Le sujet de ce jour est la conversion des Samaritains. Septième étude dans une série sur la conversion dans le livre des Actes. Dans nos premières études des conversions dans le livre des Actes, nous avons vu que de plus en plus de personnes épousaient la foi chrétienne. L'Église grandissait donc, mais elle n'accomplissait pas encore la mission mondiale que Jésus lui avait donnée, car elle n'allait pas encore au-delà de la ville de Jérusalem pour prêcher la parole. En Actes 7 et 8, quelque chose est arrivé pour changer cela. Un chrétien du nom d'Étienne fut lapidé à cause de sa prédication, et une persécution se déchaîna contre l'Église. Actes 8, versets 1 et 3 dit « Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. » Cette opposition violente à la prédication de l'Évangile n'a pas eu l'effet souhaité par Saul de Tarse et les autres persécuteurs. Au lieu d'éteindre le feu du christianisme, elle le fit répandre plus loin et plus rapidement. Les chrétiens d'alors n'avaient pas adopté la malheureuse attitude que la proclamation de la parole de Dieu est l'affaire de seulement quelques individus au sein de l'Église. L'évangélisation était la responsabilité de tous les chrétiens. Les apôtres, c'est-à-dire ceux qui avaient dirigé l'Église, sont restés à Jérusalem. Mais Acte 8, verset 4 nous dit que ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. C'est ainsi que l'Évangile est sorti du pays des Juifs pour arriver dans la région de la Samarie. Il fut apporté par un chrétien du nom de Philippe, non pas l'apôtre Philippe mentionné dans les Évangiles, mais un homme fidèle qui, avec six autres frères, avait été chargé d'une œuvre de bienfaisance au sein de l'Assemblée de Jérusalem. Son activité dans la Samarie permit à l'Église de franchir une étape importante, celle de faire connaître l'Évangile à un peuple qui n'était pas de la nation juive. Mais ce qui nous intéresse plus à présent, c'est que ce récit nous permet d'examiner la conversion d'autres personnes au Christ et d'en tirer les leçons. Voici donc le récit. Actes 5, 8, versets 5 à 8 et verset 12. Philippe, étant descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Une chose que l'on constate dans chaque récit de conversion, c'est que la conversion est toujours précédée de l'écoute de l'Évangile. Romains 1, verset 16 dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Sans cette puissance, personne n'est converti ou sauvé. Il s'agit toujours du même message, mais il est identifié de plusieurs manières. Même dans le passage que nous venons de lire, nous trouvons deux appellations pour ce que Philippe a prêché. Au verset 5, il est dit que Philippe prêcha le Christ. Au verset 12, Luc nous dit que Philippe leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Dire qu'il leur a prêché le Christ est facile à comprendre. La prédication concernait surtout Jésus-Christ, sa personne, ou son identité comme fils de Dieu, sa mort pour nos péchés et sa résurrection d'entre les morts. Il proclamait Jésus comme celui qui accomplit les prophéties d'autrefois, celui qui sauve l'homme de l'enfer, celui qui va aussi juger les hommes à la fin des temps. Mais que penser de la déclaration que Philippe prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu? Quand Jésus commençait son ministère terrestre, il a parlé du royaume. En Matthieu 4, verset 17, nous lisons que Jésus commença à prêcher et à dire, Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Le verset 23 du même chapitre dit « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. » En Marc 9, verset 1, il promit à ses disciples que quelques-uns d'entre eux ne mourraient pas sans avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Lors de son procès, Jésus affirma devant Ponce Pilate qu'il était véritablement roi, bien que son royaume ne soit pas de ce monde. À la fin de son ministère, après sa résurrection et juste avant son ascension, il parlait sur le même thème. Acte 1, verset 3 dit « Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, c'est-à-dire aux apôtres, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. » Maintenant nous apprenons que Philippe aussi prêchait le royaume de Dieu. Alors que disait-il? Sans doute Philippe proclamait l'autorité du roi, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Pierre aussi avait proclamé l'autorité du roi Jésus dans son sermon du jour de la Pentecôte. Il cita la prophétie où le roi David reconnaît que le Christ serait au-dessus de lui. Le Seigneur dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. » Pierre conclut, « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu avait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Acte 2, versets 34 à 36. C'est au nom ou par l'autorité du Seigneur Jésus que Pierre dit aux gens de se repentir de leurs péchés et de se faire baptiser. L'autorité suprême et universelle du Christ est un thème que l'on retrouve tout au long du Nouveau Testament. En Éphésiens 1, verset 22, l'apôtre Paul écrit que Dieu a fait asseoir Jésus à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Prêcher le royaume, c'est prêcher l'autorité du roi, celui à qui tous les hommes, ainsi que les anges, doivent obéissance. Philippe a, en plus, sûrement proclamé la nature ou le caractère du royaume de Dieu. Il ne s'agit pas d'un royaume politique, physique et humain. Jésus avait dit aux pharisiens, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « Il est ici » ou « Il est là ». Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Luc 17, versets 20 et 21. Le trône de son souverain n'est pas sur la terre, mais dans le ciel. C'est un royaume éternel. C'est un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il subsistera éternellement. Daniel 2, verset 44. C'est un royaume universel. Les anges du ciel chantent à Jésus en Apocalypse 5, versets 9 et 10. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume. Et Philippe a sans doute prêché aux Samaritains que le royaume de Dieu était une actualité. Il était déjà venu, et les hommes étaient invités à devenir ses citoyens et de jouir de ses privilèges. La manifestation visible de ce royaume, en effet, c'est l'Église. Ce que Dieu ajoute à son Église, il en fait citoyen du royaume des cieux. Les citoyens loyaux, ce qui revient à dire les membres fidèles de l'Église, auront droit d'entrer dans leur patrie céleste pour y demeurer pendant l'éternité. C'était véritablement la bonne nouvelle du royaume de Dieu que Philippe annonçait. Mais pour que cette bonne nouvelle soit effectivement une bonne nouvelle, il faut bien que l'auditeur sache comment devenir citoyen du royaume, qu'il apprenne ce qu'il doit faire pour avoir droit d'accès dans la patrie céleste. Bref, qu'on lui dise comment être sauvé. Jésus avait déjà parlé de ce qui serait nécessaire pour entrer dans le royaume. En parlant à Nicodème, il dit en Jean 3, verset 3, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Même en ce qui concerne les nations de la terre, On en devient citoyen principalement par la naissance. Soit on est né de parents qui sont citoyens, soit on est né dans le territoire de la nation en question. C'est par la nouvelle naissance, une naissance spirituelle, que l'on obtient la citoyenneté dans le royaume du Christ. Comme Nicodème ne semblait pas comprendre l'image d'une nouvelle naissance, Jésus a précisé au verset 5 « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » En chargeant ses apôtres de prêcher l'évangile au monde entier, Jésus laissa de côté les paraboles pour leur parler explicitement. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Marc 16, verset 16. Maintenant, en acte 8, nous trouvons Philippe qui annonce la bonne nouvelle du royaume aux gens de la Samarie. Que se passe-t-il ensuite? Acte 8, verset 12 nous dit: Quand ils eurent cru à Philippe, hommes et femmes se firent baptiser. C'est de cette manière qu'il entrait dans le royaume que Philippe annonçait. Ils croyaient en Christ et ils recevaient le baptême pour le pardon de leurs péchés. Il est important de noter que l'auteur des Actes précisa que c'était des hommes et des femmes qui ont été baptisés. Le baptême biblique n'est pas pour les enfants. Il est vrai que des hommes ont pris l'habitude de baptiser des nouveau-nés, mais ceux-ci n'ont commis aucun péché à pardonner, et ils ne sont pas en mesure d'écouter et de croire à l'Évangile. À Samarie, seulement des hommes et des femmes, et seulement ceux d'entre eux qui avaient cru, ont été baptisés. Êtes-vous citoyen du royaume des cieux, un sujet loyal et soumis à Jésus, le roi des rois? La seule manière d'entrer dans ce royaume, c'est par la nouvelle naissance. Écoutez l'Évangile pour que l'Esprit de Dieu vous amène par là à croire en Jésus. Détournez-vous de vos péchés et faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés. Vous serez ainsi ajouté à l'Église de Jésus, citoyen de son royaume céleste.
Jésus vit, voici ton roi, au monde dont j'étais l'esclave. Jésus vit, et par la foi, je suis libre et je te brave. Alléluia. Jésus vit, la mort n'est plus. Fantôme dérisoire, ô mort, où sont disparus ton aiguillon, ta victoire? Alléluia. Jésus vit et nous vivons, d'espoir notre cœur palpite. Bientôt nous entrerons au ciel où Dieu même habite.